Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais parler d'un passage qui est très connu. Je dirais, je sais que c'est le cas en Angleterre, je ne sais pas si c'est le cas ici, c'est peut-être le passage de la Bible qui est connu par même les gens qui ne sont pas forcément chrétiens, parce que c'est le psaume 23. C'est le psaume 23 et c'est très connu parce que c'est très utilisé dans les services, les cérémonies, etc. Et comme c'est très souvent le cas, mieux on connaît quelque chose, ça veut dire que parfois on le traite avec un peu moins de... pas de respect, mais on prend ça un peu comme, ouais, c'est acquis, ouais, l'Éternel est mon berger, c'est bien. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va creuser un peu. On va creuser un peu. Et donc, on va prendre le psaume en entier. Il y a les versets, on va passer plus de temps dessus que sur d'autres versets. Mais on va essayer de voir qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire à travers ce passage-là. Ce n'est pas simplement un psaume où on lit et à la fin on dit « Oh, c'est bien, c'est vrai ». C'est que Dieu veut nous provoquer, il veut nous encourager, il veut nous mener encore plus loin. D'accord? Donc, vous êtes prêts?
Oui.
Donc, Seigneur, maintenant que, Seigneur, que tu fasses vivre ta parole. Seigneur, ces paroles qu'on connaît très, très bien. Seigneur, donne-nous une nouvelle appréciation de ce que tu veux dire à travers ce psaume. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que ta parole fait dans notre vie. Et donc maintenant, Seigneur, on engage notre réflexion, on engage nos cœurs, on engage nos oreilles pour entendre ce que tu as à nous dire. Amen. Amen. Donc, ce qu'on va faire d'abord, on va lire le psaume en entier. C'est pas très long. Et après, on va redémarrer au début. Donc, psaume de David. On va parler de lui plus tard. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore, et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal. Car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Donc, c'est pas long, mais il y a beaucoup de choses dedans. Donc, on va reprendre vers le début. L'Éternel, le verset 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Faut savoir que la Bible parle beaucoup de bergers. Et la Bible parle, verset 4. Et on voit que le peuple a souffert. Le peuple d'Israël a souffert. Et le Seigneur parle et il dit, « J'établirai sur elles des bergers de mon choix qui les dirigeront. Et elles ne connaîtront plus ni crainte ni terreur et plus aucune d'elles ne manquera jamais. » L'Éternel le déclare. Quand vous n'avez pas le bon berger, ce qui règne, c'est la crainte, c'est la terreur et on a tendance à se perdre. C'est pour ça qu'on a besoin d'un bon berger. Deuxième verset vient d'Ézéchiel. Ézéchiel 34, verset 16. Encore une fois, c'est le Seigneur qui parle. Et il parle à son peuple qui, on connaît l'histoire d'Israël. Ce n'étaient pas les plus sages du monde. Donc, il dit, « Je chercherai la brebis qui sera perdue. Je ramènerai celle qui sera éloignée. » Je penserai celle qui a une patte cassée. J'aime bien cette image. Que le bon berger, ils pensent les pattes cassées. Là, on a du mal à avancer. Le bon berger est là. Et je fortifierai celle qui est malade. Et puis, quand il parle vers la fin du verset, il parle à ceux qui ont cherché à profiter des autres. Il dit, bon, là, on va les abaisser un peu. Et puis, le dernier verset, c'est en Matthieu 9, et c'est verset 36. Et là, on parle de Jésus. Donc, on est dans le Nouveau Testament maintenant. Et Jésus, il regarde les gens qui sont autour de lui, qui sont à la recherche de quelque chose. Et il dit, en voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis sans berger. Et donc, on voit que cette image de berger, ce n'est pas simplement pour qu'on mange bien. Souvent, on a cette idée de berger. Ah oui, je ne manquerai de rien. J'aurai tout ce qu'il me faut. C'est beaucoup plus large que ça. Parce que ça touche tous les domaines de notre vie. Ça touche nos corps. Ça touche nos craintes, nos peurs, nos espoirs, nos émotions. Et le bon berger sait gérer l'ensemble de son troupeau, dans l'ensemble de chaque élément de son troupeau. Et ça, c'est important. Parce que quand on voit la suite, je ne manquerai de rien. On n'est pas simplement en train de parler de ce qui est matériel. On a souvent tendance à penser à ce verset-là comme j'aurai à manger, c'est vrai. J'aurai des vêtements, et c'est vrai. Parce que ce sont aussi des promesses de Dieu. Et même Paul en Philippiens, il dit, Philippiens 4, verset 19, il dit que mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Tous vos besoins. Il sera sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est notre bon berger. Et on ne manquera de rien, mais c'est beaucoup plus large que juste la provision matérielle. Même si ça aussi, ça fait partie de ce que Dieu est en train de dire. Et donc, ce bon berger, il fait quoi exactement? Il fait quoi exactement? Si on regarde dans le verset 2, grâce à lui, je me repose dans les prairies verdoyantes. Vous imaginez ça, une prairie bien verdoyante? Vous avez vu les actualités l'été dernier où il y avait la sécheresse? Et les bergers étaient désespérés parce qu'il n'y avait nulle part pour faire paître les brebis. Ils étaient obligés d'aller chercher dans les stocks. Donc ici, on a les prairies bien verdoyantes. Ça, c'est important. C'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Alors, ça ne se voit pas dans le français, mais ce que la traduction littérale de cette expression des eaux calmes, c'est des eaux de toutes sortes de repos. De toutes sortes de repos. Donc, ce n'est pas simplement le corps qui se repose. Ce n'est pas simplement que l'eau ne bouge pas trop rapidement. Ce sont des eaux qui donnent toutes sortes de repos. C'est le repos pour le corps, c'est le repos pour l'âme, c'est le repos pour les émotions. Je ne sais pas si peut-être vous êtes quelqu'un dont les émotions ont tendance à faire un peu ça. Mais sachez qu'avec Dieu, il y a du repos. Il y a du repos. Quand on est dans la prairie verdoyante de Dieu, il y a du repos. On n'est pas poussé à droite, à gauche. Ni dans nos émotions, ni dans nos réflexions, nos pensées, ni dans notre corps, on est bien. On est bien. Et donc ça, c'est important. Donc il y a de toutes sortes de repos avec Dieu. Mais c'est pas que du repos. Il me revigore et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Alors parfois, on pense qu'on sait ce qui va nous rafraîchir le mieux. On croit qu'en voyant de l'eau, n'importe quelle eau, qu'on peut se lancer dedans, on va pouvoir s'abreuver et que ça va nous faire du bien. Mais les bergers du pays d'Israël, ils savaient qu'il fallait chercher l'eau dans le bon endroit. pour une très bonne raison, c'est que le paysage en Israël, c'est un paysage de ravines, de déserts, de gorges. Et en fait, ce qui se passait dans la partie désertique, quand il pleuvait, l'eau cumulait dans les ravins, ça coulait comme ça, ça prenait tout avec les cailloux, de la boue, etc., etc. Et puis ça disparaissait comme ça. Donc, c'était un eau qui était dangereux pour les brebis. Si tu étais berger, tu n'allais pas avec tes brebis dans les ravins pour chercher de l'eau. Parce que déjà, tu risquais de perdre tes brebis. Ils risquaient la noyade ou autre. Mais aussi, en fait, ça n'allait jamais durer suffisamment longtemps pour bien abreuver les brebis. Et donc, parce qu'il n'y avait pas d'irrigation, ce qui était autour, il n'y avait pas d'herbe. Parce que l'eau venait comme ça et puis ça partait. Donc ça restait jamais suffisamment longtemps pour bien imprégner le sol et pour faire pousser l'herbe ou autre. Mais le bon berger du psaume 23, il conduit ses brebis vers les eaux calmes. Là où c'est un peu plus plat, là où ça coule un peu plus lentement, mais c'est constant. C'est constant. Et en buvant tranquillement, sans avoir peur, on est renouvelé, on est restauré, on retrouve des forces. Et le courant tranquille et constant de l'eau permet la cultivation des choses qui vont durer. Et ça, c'est très important. Et donc, j'ai une question, première question. Je vais vous poser quelques questions. Je ne demande pas des réponses sur le coup, mais je sais qu'Alexis va en parler au groupe de croissance demain. Ma première question, c'est où est-ce que tu es en train de boire? Où est-ce que tu cherches de l'eau? Est-ce que tu cherches de l'eau où ça coule très rapidement, mais en fait, ça devient vite la poussière? Ou est-ce que tu cherches de l'eau qui coule tranquillement, mais constamment, et qui fait cultiver autour de toi? Où est-ce que tu bois? Ça, c'est ma première question. Est-ce que tu te laisses guider vers le bon pâturage? Alors, Jésus. On parle de Jésus forcément parce que Jésus s'est présenté comme le bon berger. C'est une expression qu'il utilise de lui-même plusieurs fois. On va juste regarder un exemple. En Jean 10, 11, il dit « Moi, je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, en tant que bon berger, il savait que ses brebis allaient être renouvelées, restaurées, trouver du repos. Alors, il devait le conduire à l'endroit où il pouvait se désaltérer. Car le bon berger sait aussi que pour avancer sur le droit chemin, ce qui arrive ensuite, il faut qu'on ait de la force pour le faire. C'est très difficile de prendre le chemin droit si on le fait à vide. Donc, ça commence avec du repos. Et on a déjà entendu relativement récemment quelqu'un, je me souviens plus qui c'était, qui parlait des pharisiens. Et les pharisiens de l'époque de Jésus, c'était les religieux, qui croyaient qu'on pouvait poursuivre le droit chemin en suivant des règles. Et ils avaient 613 règles, dont 365 étaient les prohibitions. Donc, il y avait une prohibition pour chaque jour de l'année. Je sais pas ce qui se passe les années où il y a 366 jours. Peut-être on a le droit de faire quelque chose, je ne sais pas. Mais ils essayent d'imposer ces critères sur tout le monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est cet ensemble de règles, c'était connu comme un joug. On appelait ça un joug, un ensemble de règles qu'il fallait suivre. C'est un peu la règle de vie pour ces personnes-là. Et le joug, bah, vous avez tous une image d'un joug, vous savez ce que c'est? C'est un bout de bois, comme ça, qu'on met à travers les épaules des bêtes qui travaillent dans le champ, soit les chevaux, les bœufs à l'époque. Et c'était pour vérifier qu'ils avançaient au bon rythme, ensemble, pour bien labourer. Et donc, c'était un peu l'attelage. Et c'est ce joug qui devait rythmer la vie des gens. Mais forcément, plus les règles sont compliquées et détaillées et nombreuses, plus il y a des probabilités qu'on va oublier la moitié, ne pas forcément comprendre les détails de certaines choses. Et en fait, le peuple vivait dans un état de culpabilité et de manque parce qu'ils n'arrivaient pas. Et ça, c'est en plus de la loi qui était déjà instaurée par Dieu. Et la Bible nous dit, en fait, que la loi, en fait, ça fait en sorte qu'on est conscient du péché, mais ça ne nous aide pas à régler le problème. C'est juste que maintenant, on sait ce que c'est, le péché. Et le fardeau de ces règles était trop lourd pour le peuple. Et Jésus savait que le fardeau était trop lourd. Et c'est lui, le berger, qui est venu pour donner du repos. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en Matthieu 11, verset 28-30, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. » Donc, ça veut dire, prenez mes règles de vie. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Alors, Jésus ne disait pas, attention, qu'il fallait rester tout le temps dans la prairie verdoyante, en train de dire, oh, que c'est belle la vie. Il y a des moments où c'est très nécessaire, mais en fait, Jésus, il y a un chemin à suivre. Il y a un chemin à suivre, il y a un chemin devant nous et Jésus veut qu'on le suive là où il nous mène. Il y a un joug à porter. C'est pas qu'il n'y a plus de règles. Il y a un joug à porter, mais le joug que Jésus impose sur nous, c'est léger. C'est léger. Et Jésus explique ça en deux règles, au lieu d'avoir 613 plus les petits bricoles à droite, à gauche. En Matthieu 22, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Donc, Dieu d'abord. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Donc déjà, c'est beaucoup plus facile d'avoir deux choses à retenir plutôt que 613. Et vous avez remarqué, il n'y a pas de prohibition là-dedans. C'est un côté un peu plus positif quand même des choses. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de tout faire, mais ça veut dire que ce qu'on choisit de faire, c'est dans le contexte de ces deux règles. Et ça, c'est le joug que Jésus nous appelle à apporter. C'est ce joug-là qui nous mène sur ce droit chemin que Dieu a préparé pour nous. Et c'est ça l'essentiel de ce droit chemin. Ce droit chemin, ça commence là où coulent les eaux de la restauration et le renouvellement et le repos donné par Dieu. Et ensuite, nous avançons au rythme de Jésus. Il y a un joug à porter qui fait qu'on avance au bon rythme, à la bonne cadence avec Jésus. Et quand on avance, comme on a dit, on a quitté la prairie verdoyante, et qu'est-ce qui se passe? Bah, parfois, le droit chemin s'amène par les moments plus compliqués. Et on voit dans le quatrième verset du psaume 23, ça, c'est un verset qu'on entend souvent dans les moments de difficulté. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, dans certaines traductions, ça parle les ténèbres de la mort. C'est le lieu le plus noir, le lieu le plus difficile, le plus lourd, le plus... Et ça peut varier pour chacun d'entre nous. Je ne craindrai aucun mal. Car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Vous savez, les bergers, ils avaient deux outils de travail. Il y avait la houlette, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le grand bâton avec une sorte de courbe comme ça. Et puis le bâton. Et le bâton, c'était quelque chose un peu plus court. Et l'objectif, et ça traînait à la taille, comme ça, à la ceinture. Et c'était pour, fait comme ça, pas contre les brebis, attention, mais les, par exemple, les fauves qui venaient parfois, c'était pour avoir quelque chose où on pouvait taper dessus. Okay? Ça, c'est le travail du berger. On tape sur les choses qui attaquent le troupeau. On protège le troupeau. Et donc, il y a deux outils. Et ça veut dire que lorsqu'on trouve le repos en Dieu, et lorsqu'on démarre sur le droit chemin, on n'a pas peur de suivre là où le chemin va nous mener. Parce que le berger est quand même présent. Le berger est présent. Et ça veut dire qu'on passe par les moments sombres et difficiles, et le berger, il est là avec sa houlette et son bâton. Et non seulement présent, et ça j'aime bien dans ce psaume-là, mais au lieu de me mener de sa place à la tête du troupeau, c'est ce qu'on voit le plus souvent, il y a le berger qui marche, et derrière, il y a tous les brebis qui trottent derrière. Et ce qu'on voit dans ce passage-là, c'est que les choses changent un peu. Parce qu'au lieu de parler de lui, il est mon berger, il me fait ceci, il me fait cela, il me donne ça, tout d'un coup, ça devient tu. Et c'est une manière de montrer que Dieu est plus près. Plus c'est sombre, plus Dieu s'approche de moi. Il est pas le berger qui me mène et je le vois devant. C'est le berger qui n'est pas plus loin que la longueur de sa houlette. Parce que on voit que dans ce passage-là, il dit que ta houlette me guide. Ça veut dire il faut qu'on soit à la bonne distance, à la portée. Et je pense que ça c'est vraiment important parce que parfois c'est dans les moments difficiles qu'on a l'impression que Dieu est plus loin. Qui a déjà vécu ça? Vous passez par un moment difficile et on peut se dire, mais Dieu, t'es où? T'es où? Et ce que Dieu dit dans ce passage-là, c'est, t'inquiète pas, la raison que tu ne me vois pas là, c'est parce que je suis là. Ok? Je ne suis pas éloigné, je me suis approché. Donc peut-être il faut changer les lunettes. Peut-être il faut des lunettes de près pour bien voir que je suis là. Et je pense que ça c'est vraiment important à souligner parce que ce n'est pas ce que nos circonstances nous disent parfois. Donc je veux vraiment insister là-dessus. Pierre, est-ce que tu peux mettre la première image, s'il te plaît? Ça, c'est un brebis avec la houlette. D'accord? Et c'est important parce que c'est une manière d'attraper son fait mal pour réorienter. OK? Ce que j'ai appris aussi en faisant mes recherches, et j'aime bien ça, c'est qu'à l'autre bout, traditionnellement, il y avait une petite pelle. Et ce qui se passait, quand le brebis était un peu trop loin, le berger creusait un tout petit motte de terre, il balançait comme ça, pas pour taper le brebis, mais juste de l'autre côté pour faire suffisamment peur pour que le brebis se rapproche du troupeau. Et quand on est plus près du berger, il y a ça. On peut être accroché et oup, attention, précipice là-bas. Attention, fauve là-bas, on va s'approcher, s'il vous plaît, au troupeau. Et c'est vraiment important que le brebis prenne ça bien, parce que sinon, ça, je sais pas pour vous, moi, pour moi, le brebis là, elle est assez calme, ouais. Est-ce que tu peux mettre la deuxième image? Alors, ça c'est un brebis qui pousse, qui ne veut pas qu'on l'arrête. Je sais pas, moi j'ai l'impression que ça c'est un peu plus inconfortable. Vous direz oui? Sur les deux, je pense que le premier brebis est un peu plus à l'aise quand même. Parce que là, c'est un brebis qui essaie quand même de continuer. Dans le sens où le berger dit, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est vraiment pas une bonne idée. Et j'avais trouvé pire. Hein. Il y avait une image, mais bon, c'était un peu triste, donc je vous montre pas. Un brebis qui était quasiment sur les pattes arrière, comme ça, parce qu'il poussait tellement dans ce sens-là, qu'avec la houlette là, je veux pas arrêter. J'ai toujours les pattes arrière qui avancent. Et tu dis, moi, ce brebis-là n'a vraiment rien compris. En fait, c'est pour son bien. C'est pour son bien. Ce n'est pas un outil de contrôle, c'est un outil de prévention. Un outil de prévention, c'est non, pas par là, par là. Et plus on reste près de Dieu, mieux on répond à l'utilisation de la houlette dans nos vies. Si on est prêt à ralentir quand il y a la houlette de Dieu qui se manifeste dans nos vies, ça va être beaucoup plus confortable. Beaucoup plus confortable. Et finalement, un brebis qui est déterminé à quitter le troupeau, le berger ne va pas forcer. On ne peut pas forcer un brebis, en tout cas. Mais si on veut vraiment suivre le chemin droit, il faut qu'on ait une réponse positive à la houlette de Dieu. Ça va être beaucoup plus confortable pour nous et on va éviter pas mal de soucis si on peut agir comme ça. Alors, juste un point un peu en lien avec ça. Si vous avez parfois l'impression que quelque chose vous freine dans votre vie, je ne sais pas pour vous, mais souvent, moi j'ai tendance à tout de suite entrer dans la prière pour briser l'opposition, etc. Parce que, allez, on veut casser ça, on veut briser ça. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que parfois, en fait, toujours, il faut demander à Dieu d'abord, est-ce que tu es en train d'utiliser ta houlette? Parce que si c'est Dieu qui me freine, je veux l'entendre. Alors, peut-être c'est pas Dieu. Peut-être c'est vraiment un obstacle. C'est vraiment quelque chose qui essaie de me détourner de ce que Dieu veut pour moi. Mais je pense que parfois on est un peu trop pressé. On est tellement pressé d'avancer qu'on ne répond pas comme il faut à la houlette de Dieu. Et donc, je vous encourage dans les situations de vie où vous avez l'impression qu'il y a des obstacles. Demandez d'abord à Dieu, avant de faire quoi que ce soit d'autre, Dieu, est-ce que c'est toi qui me freine? Parce que si c'est toi qui me freine, je vais ralentir. Si c'est pas toi qui me freine, et c'est autre chose, là, je vais commencer à prier pour briser les oppositions, etc. Mais n'oublions pas de poser la question. N'oublions pas de poser la question. Parce que, parfois, on est pressé d'aller dans une direction qui n'est pas la direction que Dieu a choisie pour nous. Et si on veut vraiment écouter la voix de Dieu, il faut qu'on prenne le temps pour lui poser la question. Donc, ma question numéro 3, quelle est ta réponse à la houlette du berger? Comment est-ce que tu réponds quand Dieu dit « pas trop vite » ? Comment est-ce que tu réponds quand Dieu dit, en fait, non, c'était pas cette direction-là, c'est plutôt pas là? Donc, ça, c'est la troisième question. Est-ce que tu te laisses guider? Est-ce que tu te laisses orienter par Dieu? Et puis, ça, c'est notre voyage avec le berger. Et puis, que c'est dans cet environnement hostile que notre berger, en fait, il se transforme à un moment donné en roi, en hôte qui prépare une fête pour moi. Et on trouve en verset 5, pour moi, donc on vient de passer par les épaisses ténèbres, ténèbres épaisses, bon, vous m'avez compris. Et là on arrive et il y a une table. Il y a une table. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Alors, imaginez un instant. Quand tu fais la fête, est-ce que tu fais en général devant tous les gens qui ne t'aiment pas? Parce que c'est ce que ce verset dit. Il y a un banquet, il y a une table qui a été préparée aux yeux de mes ennemis. C'est un peu provocateur, non? Non? Vous ne pensez pas? C'est moi, je m'amuse et vous, vous êtes là. Et moi, je fais la fête et vous ne m'aimez pas, mais tant pis. Okay? C'est pas exactement ça qu'on a en train de se passer ici. Parce que je suis accueillie comme un invité privilégié par qui? Alors, dans le verset, on n'a pas de nom pour cette personne-là, on sait que c'est Dieu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette fête ressemble à une fête, un festin qui était donné traditionnellement à l'époque pour sceller une alliance ou un traité entre un roi très puissant qui garantissait la paix et la sécurité pour un État vassal. Ça veut dire un État qui prêtait allégeance à ce plus grand roi. Et quand ça se passait, quand il y avait le grand roi qui arrivait, et puis il y a les petits rois qui venaient devant ce grand roi, qui disaient, bon, on prête allégeance à vous, on se met à votre service. Et ce qui se passait, c'est que le grand roi faisait connaître qu'il y avait une grande fête et que c'était un signe vers les ennemis de ces petits rois pour dire, vous touchez à ce petit roi-là, vous touchez à moi. Donc, méfiez-vous. Parce que il y a quelqu'un de plus grand derrière cette personne-là. Et donc, c'est une alliance qui portait de la paix et de la sécurité à ces petits États qui prêtaient allégeance. Alors, c'est important de savoir qu'il fallait prêter allégeance. C'était pas juste, est-ce que tu peux me protéger si quelqu'un vient me taper dessus? C'était parce que je me suis mis à ton service. Je sais que ça va se passer comme ça. Et on a parlé un peu la semaine dernière du baptême. Et c'est un peu ce qui se passe au baptême. C'est le moment où publiquement, tu prêtes allégeance. Tu dis Seigneur, tu es mon Seigneur. T'es pas juste mon sauveur, tu es mon Seigneur. Et je mets ma vie à ton service. C'est une image parmi d'autres pour le baptême. C'est pas la seule chose qui est en train de se passer là. Mais c'est ce signe public. Et en fait, ce qui se passe, c'est une déclaration devant tes ennemis qu'il y a quelqu'un plus grand derrière moi. Et c'est pour ça que je pense qu'une raison parmi d'autres, que le baptême est tellement important. Parce que quand tu affiches les choses comme ça, tu es aussi en train de te donner droit à appeler à la protection de Dieu. Ok? Donc c'est important. Et donc, il y a cette fête. Et qu'est-ce qui se passe dans cette fête? On mange bien. On boit bien. Avec modération, bien sûr. Parce qu'on voit là que je ne manque de rien. Il y a mon verre qui déborde parce qu'il y a tant de bonnes choses à boire qu'il n'y a pas de manque là. On revient vers ce qu'on a lu au début. Je ne manquerai de rien. Tu fais déborder ma coupe. Tu oins d'huile parfumée ma tête. C'est ce qu'on faisait pour les invités d'honneur. Tu n'es pas l'intrus à la fête. Tu es l'invité d'honneur. Dieu dit, je suis content que tu sois là et je vais t'honorer. Je vais t'honorer. Et donc, pour nous tous ici, il y a de l'huile parfumée pour nos têtes. Parce que Dieu veut nous honorer. Ok? C'est pas juste que, voilà, je me fais tout petit comme ça. Dieu dit qu'il veut que nous, on soit glorifiés. Il veut qu'on soit le reflet de la gloire de Jésus. Et donc on est là pour être les créatures. Bon, Christiane, je pense que c'est l'expression préférée de Christiane. On est des créatures merveilleuses. Et Dieu veut que le monde voit ça. Dieu veut que le monde voit ça, qu'il y a un témoignage de comment on est honoré par Dieu. Alors, pensez à la personne qui a écrit ce psaume-là. C'est David. Okay? David, le roi David. Il a connu beaucoup de succès, beaucoup de réussites dans sa vie de roi. Mais il savait que toute sa réussite dépendait du roi qui était plus grand que lui. Il ne s'est jamais dit, c'est à cause de moi que tout va bien. Il savait d'où venait sa réussite. C'est quelque chose qui nous aide dans l'humilité. Quand tu sais que ce qui va bien pour toi, ce n'est pas parce que tu es hyper merveilleux, même si tu es une créature merveilleuse, mais ça vient de ce que Dieu a mis à ta disposition. Et donc, ça, c'est important. J'ai prêté allégeance à quelqu'un plus grand que moi. Je sais qu'il y a la protection derrière. Parce que c'est ce que ce passage est en train de nous dire. Et donc, ça veut dire que c'est mon berger qui est devenu mon roi puissant, qui garantit ma sécurité, ma progression sur le droit chemin, que ce soit dans les moments de repos qui sont nécessaires ou dans les vallées très sombres qui, parce qu'on vit dans un monde déchu, il y a des passages qui malheureusement vont être comme ça, mais Dieu a pourvu pour ces situations-là. Parfois, face aux circonstances et aux personnes hostiles, mais je sais qui se trouve à côté de moi. Je sais qui se trouve à côté de moi. Et donc, ma quatrième question, c'est est-ce que tu as prêté allégeance à Dieu? Est-ce que tu as dit, Dieu, je me mets à ton service? Parce que c'est ça, finalement. C'est je suis disponible pour toi. Ce que tu veux que je fasse, voilà. Je suis là. Je dis oui. Je dis oui. Je te suis. Je suis dans l'obéissance. Donc ça, c'est ma quatrième question. Parce que si c'est le cas, là, tu sais que tu as la sécurité garantie par Dieu. Et ces deux choses vont ensemble. Et puis, on arrive au dernier verset. Dernier verset. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront. Alors, ça, c'est une belle image. Ça veut dire que je marche. Et juste derrière moi, il y a toujours quoi? La bonté. Et donc, ça veut dire que je marche au rythme que Dieu à la cadence que Dieu a établie pour moi, parce que je suis attentif à la houlette, je suis attentif au chemin, et il y a la bonté et l'amour de mon bon berger et mon roi qui me poursuivront. Ça veut dire que ça lâche pas. Si tu es poursuivi par quelque chose, c'est pas juste la chance qui fait que, oh oui, on s'est croisé comme ça. Non, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très délibéré. Et c'est Dieu qui a mis sa bonté à son amour, à ta poursuite. Okay? Imagine, tu pars lundi matin pour le travail, tu es poursuivi par l'amour et par la bonté de Dieu. Poursuivi. Tu prends la A23 comme moi pour aller travailler. Je suis poursuivie quand je prends la A23 pour aller travailler. Je suis poursuivie par la bonté et l'amour de Dieu. Tu vas laisser tes enfants à l'école. Quand vous quittez votre maison et vous allez vers l'école, vous êtes poursuivie par la bonté et par l'amour de Dieu. Quand je fais mes courses, je suis poursuivie. Quand je parle à mon voisin, quand je vais dans l'amphi pour écouter les cours sur quelque chose, je suis poursuivie par l'amour et la bonté. Il ne faut pas qu'on l'oublie Parce que quand on arrive vers les moments, les traversées un peu compliquées, n'oubliez pas, vous êtes poursuivis. Ce n'est pas qu'on arrive à la vallée de l'ombre et tout d'un coup, la bonté et l'amour disent « Oh non, on ne passe pas par là ». Non, c'est marqué là, c'est toute ma vie. Peu importe les situations que je traverse, je suis poursuivie, poursuivie. Vous avez besoin de... comme ça, vous allez les voir. Faites ça, ça va faire drôle pour tes voisins. T'es en train de promener, tu fais. Ouais, il y a la bonté, il y a l'amour. Okay? Mais ça, c'est notre quotidien, c'est censé être notre quotidien. Et c'est notre quotidien, c'est juste que parfois, on ne le croit pas. D'accord? Donc, pensez à ça cette semaine. Et donc, Dieu ne nous abandonne pas, mi-chemin. Toute votre vie, la bonté et l'amour du bon berger vous poursuivront. Et la dernière ligne, c'est vraiment très important. Vous pouvez à tout moment rechercher sa présence. C'est « je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai ». Il n'y a jamais un moment de votre vie où vous pouvez vous dire « en fait, non, j'ai trop foiré, j'ai trop fait ceci, j'ai trop fait cela. » La porte du sanctuaire, Dieu dit, tu peux y aller, tu peux y aller. Tu vas être obligé de mettre les choses en règle. Parce que c'est un lieu saint. Sanctuaire, ça veut dire un lieu saint. Mais la porte est toujours ouverte. Parce que Jésus a agi. Et donc, pendant tout notre parcours, et on sait très bien de la vie de David que, ouf, il a une liste comme ça de tout ce qu'il a fait. Mais à chaque fois, il savait retourner au temple. Il savait retourner et dire, Seigneur, j'entre dans le lieu saint. Et voilà. Nettoie-moi, purifie-moi, et je serai purifié. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas retourner à Dieu. Quand tu as fait des choses qui t'ont bloqué, qui, voilà, tu sais que ça déplaît à Dieu, ne restez pas là, mais retourne dans le sanctuaire, parce que Dieu est là et il t'attend, c'est ton bon berger. C'est ton bon berger et il veut que tu continues sur le droit chemin. Et juste pour terminer alors, il y a une ligne dans le verset 3, c'est même pas une ligne, c'est une expression dans le verset 3 qui dit que si Dieu fait tout ça, c'est pour l'honneur de son nom. Alors, en fait, je ne t'ai pas donné, mais oui, il me revigore et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Il faut savoir que Dieu doit rester intègre à son caractère. Et son caractère, c'est qu'il est un Dieu qui est bon. Et donc, il dit, je ne peux pas ne pas le faire parce que ce serait contre mon caractère. Ce sera contre ma réputation. Ce sera contre qui je suis. Je suis bon. Et parce que je suis bon, voilà comme j'agis envers vous. Je suis bon, c'est qui je suis. Et donc, pour l'honneur de mon nom, pour que ma réputation reste un Dieu qui est bon, voilà pourquoi je fais tout ça. On se dit souvent que nous, on ne mérite rien. Et c'est vrai. Mais Dieu a choisi, il a choisi d'être bon envers nous. Il a choisi d'être bon et donc il va agir pour que tout ce qu'on vient de voir là sera vrai pour nous. Parce qu'il dit, c'est ma réputation. C'est ma réputation qui est en jeu là. C'est pour l'honneur de mon nom. Parce que moi, je veux être glorifiée parce qu'on me reconnaît comme un Dieu qui est bon. Et il y a un verset en Hébreux 13, on va utiliser ça un peu comme une déclaration à la fin, qui résume bien ce qu'on vient de voir dans le psaume 23. Donc c'est Hébreux 13, 20, 21. Le Dieu qui donne la paix. Donc ça, c'est notre repos. Il donne la paix, paix à notre âme. Il a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger. Donc, il n'y a pas plus grand que lui comme berger. Il est devenu le grand berger des brebis en scellant de son sang l'alliance éternelle. Là, on parle de l'alliance entre Dieu et nous. C'est la table à laquelle nous sommes invités. Ça, c'est l'alliance. C'est « je dis que tu es mon Seigneur » et là, tu deviens garant pour moi. Tu deviens garant pour moi. Ça, c'est l'alliance. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté. On est à son service. Qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui, soit la gloire pour l'éternité. Amen. Amen. Et donc, ça veut dire qu'il y a quatre questions qui vont être traitées demain soir, parmi d'autres choses. C'est où est-ce que tu bois? Où est-ce que tu cherches de l'eau? Deuxième question, est-ce que tu portes le joug que Dieu t'a donné? Troisième question, quelle est ta réponse à la houlette quand Dieu l'utilise dans ta vie? Et quatrième question, est-ce que tu as prêté allégeance au Seigneur? Et ce sont les quatre questions que je vous laisse pour réflexion. Parce que si on peut répondre à ces questions-là, ça veut dire qu'on a compris ce que le psaume 23 nous appelle à faire. D'accord? Alors, je vous souhaite un très bon dimanche. Dans la paix, n'oubliez pas, vous êtes poursuivis cette semaine par la bonté et l'amour. Donc, n'oubliez pas, parce que c'est vrai. Bon dimanche.